Et voici votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La neige bloque donc des centaines d'automobilistes dans le Massif Central.
Nous appellerons dès le début de ce journal le maire de Blavozy en Haute-Loire qui a accueilli cette nuit du monde sur sa commune. Le préfet du département espère une amélioration en fin de matinée. Ça va déjà mieux en Corse où les aéroports ont rouvert. L'île était balayée hier soir par une violente tempête. Dans l'actualité également, la préfecture de police de Paris qui interdit les courses-poursuites dans la capitale après un accident cet été. La mobilisation des opposants à la rocade de Strasbourg. Certains sont en grève de la faim depuis plus d'une semaine. Et puis, bientôt la fin pour Angela Merkel qui annonce son départ pour 2021. Le temps pour elle de finir son quatrième mandat de chancelière.
Tiens, justement, dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez dire Auf Wiedersehen à Angela alors.
C'était un peu le Highlander de la politique. On est complètement déboussolé.
Deux météos d'ici 7h.
Dans le Cher à Vierzon, 1 degré, quelques flocons de neige ce matin. Un ciel nuageux, mais 10 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Et on part tout de suite, comme promis, dans le Massif Central où se concentrent les principales difficultés ce matin.
En Haute-Loire, l'un des départements sous la neige depuis hier soir, nous sommes en ligne avec Franck Paillon, maire de Blavozy. C'est au nord-est du Puy-en-Velay. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur RTL. Vous avez recueilli sur votre commune cette nuit une partie des automobilistes bloqués dans la soirée en bord de route. Ça fait combien de personnes ?
Alors, on a accueilli 62 personnes dans le centre socio-culturel de la commune. Mmh. En fait, on est une commune située sur la RN 88 et on possède un bâtiment. Donc, j'ai été contacté par la préfecture et le 10-43 vers 21h. Et ils m'ont demandé de mettre à disposition des locaux pour pouvoir accueillir éventuellement des naufragés de la route. Ce qui s'est passé à peu près une demi-heure plus tard, hein, à partir de 21h30, donc il y a les pompiers avec des véhicules 4x4 qui ont commencé à amener des familles de naufragés. Mmh. On possède une grande salle des fêtes avec quelques salles annexes qu'on a essayé d'équiper au mieux. Alors on n'est pas un hôtel, hein, on est vraiment, c'était assez rustique pour les naufragés, mais on a essayé de les accueillir au mieux en leur proposant des boissons chaudes et des jus de fruits, de quoi se restaurer avec des biscuits et quelques aliments pour pallier aux premières nécessités.
Vous avez essayé de rendre leur nuit à peu près confortable. On sait qu'il y avait 800 véhicules bloqués sur cet axe hier soir. On sait où sont les autres passagers, automobilistes.
Alors nous, si vous voulez, il y a un col, le col qui sépare, qui était le plus difficile, c'était le col du Pertuis. Donc tous ceux qui étaient côté le Puy-en-Velay, eh ben sont redescendus soit sur la commune de Saint-Austien, soit sur la commune de Blavozy. Mmh. Il y a quelques voitures qui ont réussi à faire demi-tour et qui sont venues se stationner sur la commune et qui sont rentrées dans les bâtiments et qui ont passé la nuit chez nous.
Quelle est la situation ce matin ? Ça circule mieux ? Il neige moins ?
Alors, il neige moins. Malgré tout, le problème, c'est que tous les véhicules n'étaient pas équipés. Compte tenu que cette chute de neige a été très précoce dans la saison, hein, c'est rare que début octobre, il y ait une telle quantité de neige.
Ouais.
Et les véhicules qui n'étaient pas équipés ont empêché ceux qui étaient équipés de progresser. Et ça, c'est ce qui a entraîné cette situation si compliquée à gérer et si dramatique pour les personnes.
D'accord.
Alors, les personnes adultes, bon, elles ont réussi à gérer et à comprendre la situation. À côté de ça, quand il y avait des familles, c'était beaucoup plus compliqué pour rassurer les enfants et les mettre dans des conditions acceptables pour passer la nuit.
Merci. Donc on va vers une amélioration, si je vous suis.
Oui, voilà. Dans la matinée, je suppose que ça devrait rentrer dans l'ordre. Ça a été ponctuel, mais ça a été quand même très violent pour toutes les personnes qui sont restées coincées.
Merci beaucoup, Franck Paillon, maire de Blavozy en Haute-Loire. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RTL. Merci, bonne journée, bon courage.
Merci.
Et
au revoir.
Et toujours en Haute-Loire, moins de 4000 foyers sont privés d'électricité.
Le préfet espère un retour à la normale pour la fin de matinée. Jusqu'à 1000 automobilistes ont été bloqués entre Haute-Loire et Loire. Le déneigement est en cours sur l'A89, secteur tiers. La situation s'améliore en Corse. L'île était balayée, vous le savez, hier par une tempête exceptionnelle. Hier, la Corse du Sud avait même été placée en alerte rouge pour la première fois de son histoire. La vigilance est désormais orange. Les aéroports ont rouvert ce matin à 6h. Le réseau routier est dégagé. dégagées. Les commerces aussi vont pouvoir rouvrir. Et puis notez que l'Italie aussi est frappée par cette vague de mauvais temps qui a fait 5 morts hier. De nombreuses écoles restent fermées aujourd'hui.
RTL, 6h35, course-poursuite interdite pour les policiers à Paris.
C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs agents. Des consignes auraient été passées par la préfecture de police de Paris depuis la mort d'un homme en août dans les rues de la capitale. Il a été abattu par un policier qui a été mis en examen. Ces courses-poursuites seraient considérées comme trop dangereuses. La préfecture a beau démentir l'interdiction systématique, ce n'est pas ce qu'affirme ce fonctionnaire employé dans une brigade de nuit. Et il interpelle ce matin sur RTL le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sera sur notre antenne dans une heure.
Aujourd'hui, depuis l'événement de notre collègue Kevin qui a fait feu sur un délinquant et qui l'a mortellement touché, on nous demande de ne plus attraper les gens qui prennent la fuite dès que ces gens commencent à prendre des risques. Mais le problème, c'est que ces gens-là, pour éviter la prison, ils vont prendre des risques. Alors, l'argument, ça va être de ne pas prendre de risques, mais il faudra m'expliquer, à 3h du matin, sur le périphérique, il n'y a pas de sortie d'école, il n'y a pas de petite fille qui traverse.
Et qu'est-ce que vous voulez lui dire au ministre, alors, ce matin ?
Alors moi, j'ai envie de lui poser cette question. Monsieur le ministre, on fait ce métier par vocation, pour attraper des malfaiteurs, des délinquants, etc. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est la hiérarchie intermédiaire qui n'a pas envie de prendre de risques et qui sort le parapluie, comme on dit chez nous, ou est-ce que ça vient réellement du ministre et est-ce qu'il a conscience que chaque nuit, quand quelqu'un prend la fuite, on demande aux policiers d'arrêter de les prendre en charge.
Propos recueillis par Guillaume Chiez.
Et question posée donc directement à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de RTL à 7h40. Il répondra à vos questions au 3210 à partir de 8h15. Et on attend bien entendu son avis. Est-ce qu'il faut ou non des policiers dans nos écoles, aux abords des écoles ? Visiblement, il y a des désaccords au gouvernement. Discussion attendue aujourd'hui au Conseil des ministres.
Première audience aujourd'hui pour Jonathan Daval, un an après la découverte du corps de sa femme Alexia. Il sera confronté à sa belle-famille, les parents de la jeune femme et son beau-frère, surtout qu'il accuse du meurtre depuis cet été. Jonathan Daval va plaider sa remise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon à 9h. Un prêtre et un ancien évêque devant la justice à Orléans. L'abbé Pierre de Castellet est accusé de pédophilie par 3 personnes. Les faits se seraient déroulés au début des années 90. L'ancien évêque d'Orléans est lui poursuivi pour non-dénonciation.
Ils ont perdu entre 3 et 8 kilos en quelques jours.
8 opposants au projet de rocade près de Strasbourg viennent d'entamer leur deuxième semaine de grève de la faim. Le gouvernement refuse d'enterrer ce projet dont on parle depuis les années 70. Il vise, je vous le rappelle, à désengorger le trafic sur l'autoroute A35 au détriment d'une partie du paysage. Les manifestants ont trouvé refuge dans une église protestante en banlieue de Strasbourg. Yannick Collant est allé les voir.
Les visages sont marqués, les corps fatigués, amaigris, allongés dans des fauteuils de l'église Saint-Michel de Bischheim. Les grévistes de la faim contre le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg, en sont à leur 8e jour.
En deuxième semaine, c'est la fatigue qui commence à gagner. On commence à vraiment accuser le coup.
Marc a 57 ans, il y a quelques semaines, il n'aurait jamais pensé en arriver jusque-là.
Les manifestations n'ont pas suffi, les pétitions n'ont pas suffi, les diverses actions sur le terrain n'ont pas suffi. Eh bien, nous avons décidé effectivement de nous engager dans cette action de grève de la faim qui peut paraître extrême mais qui nous paraît le dernier recours.
À ses côtés, Rachel, 42 ans, très déterminée.
Je supporte aussi de moins en moins l'hypocrisie des pouvoirs publics parce que le président de la République fait de très beaux discours, mais les pouvoirs publics font tout le contraire et c'est insupportable. On a essayé de s'opposer aux travaux physiquement, on a été délogés assez brutalement. Donc en fait, la grève de la faim, c'est le dernier recours non violent.
Les grévistes de la faim qui en appellent à Emmanuel Macron pour stopper les travaux du GCO, ils espèrent un geste de sa part lors de sa visite à Strasbourg dimanche prochain.
Un reportage de Yannick Hollande, bientôt Das Ende pour Angela Merkel qui annonce qu'elle quittera définitivement la politique après la fin de son mandat en 2021, conséquence de son nouvel échec électoral de dimanche.
Il est temps aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est pourquoi je dois vous communiquer les décisions suivantes. Premièrement, au prochain congrès de la CDU à Hambourg début décembre, je ne me porterai plus candidate à la présidence du parti. Deuxièmement, cette quatrième législature en tant que chancelière de la République fédérale d'Allemagne sera ma dernière. Et je le précise au passage, je ne viserai aucune autre fonction politique. Troisièmement, je suis prête à rester chancelière jusqu'à la fin de cette législature.
Angela Merkel avec Blandine 1100 à Berlin. Merkel au pouvoir depuis 2005. À l'époque, le président en France s'appelait Jacques Chirac et l'iPhone n'existait pas.
Merci beaucoup, Jérôme Florin.